Et pour commencer ce journal, une prépublication sur le site Archive des astronomes ont peut-être aperçu le fond des ondes gravitationnelles de l'univers.
Oui, les ondes gravitationnelles, ce sont des ondulations dans l'espace-temps provoquées par les mouvements d'objets massifs, des collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, des supernovas ou encore le Big Bang. À l'instar du fond cosmologique diffus, il existerait une mer d'ondes gravitationnelles qui imprègne tout, ce qu'on appelle le fond des ondes gravitationnelles. Pour traquer les ondes gravitationnelles, les astrophysiciens du consortium Nanograv se servent des réseaux de pulsars synchronisés. Alors, un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne rapidement et régulièrement, et leurs faisceaux de lumière sont comme les tic-tac d'une horloge cosmique extrêmement précise. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la même région de l'espace-temps que ses faisceaux de lumière, elle dérègle très subtilement ce tic-tac, et la lumière nous parvient avec un peu plus ou un peu moins de temps. Les chercheurs du Nanograv ont donc analysé les données de 45 pulsars sur 13 ans, et ils ont trouvé un signal d'onde gravitationnelle identique sur plusieurs pulsars. Ce bourdonnement étrange à basse fréquence pourrait être la première preuve du fond des ondes gravitationnelles. Mais pour le moment, nous avons encore besoin de beaucoup plus de données.
Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question des capacités du coronavirus à attaquer les neurones, du stockage de données digitales dans de l'ADN de cellules vivantes, de la mort d'une galaxie très lointaine et du Covid long qui toucherait 4 malades hospitalisés sur 4. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref.
Le sens de l'orientation, la boussole intérieure, des bébés tortues qui atteignent la mer aux pigeons voyageurs, on sait que la magnétoréception existe, la sensibilité au champ magnétique, mais cela reste difficile à prouver. Après plus de 10 ans de travail, une équipe japonaise vient de prouver en laboratoire la capacité des cellules vivantes à détecter les champs magnétiques. Leurs résultats suggèrent même que les champs magnétiques peuvent avoir un impact direct sur les réactions chimiques à l'intérieur des cellules. Après tout, les jumeaux identiques, les vrais jumeaux, ne sont finalement pas toujours génétiquement identiques. Certains jumeaux ont un nombre important de mutations qui ne sont pas partagées par leurs homologues. Après avoir séquencé les génomes de 387 paires de jumeaux monozygotes, une équipe américaine montre que nous avons sous-estimé les mutations précoces au cours du développement, avant celles qui apparaissent plus tard dans la vie. Et enfin, nous en parlions récemment dans la méthode scientifique, l'ornithorynque. Ce mammifère à bec, qui pond des œufs, qui sue du lait, qui est fluorescent et venimeux, des chercheurs ont séquencé le génome de cet étrange animal. Cette espèce possède des gènes d'oiseaux, de reptiles et de mammifères. Cet atlas du génome de l'ornithorynque est une clé pour mieux comprendre la façon dont d'autres mammifères ont évolué, y compris les humains.
Dans quelques instants, nous serons les témoins de ce que la lutte entre les méga-corporations implique en termes de modifications corporelles cybernétiques. Mais avant cela, on ouvre le journal de la science-fiction. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Scientific Reports. Une équipe américaine a doté un robot d'une forme primitive d'empathie.
Et l'empathie, c'est cette capacité cognitive qui nous permet de comprendre les besoins et les intentions de ceux qui nous entourent. Chez l'humain, elle apparaît vers l'âge de 3 ans. En neuropsychologie, on parle du concept de théorie de l'esprit. Les chercheurs de l'université de Columbia ont mené une expérience avec deux robots. Le premier a été programmé pour se déplacer systématiquement vers des points verts et pour choisir le plus proche de lui. Et parfois, un bloc rouge l'empêchait de voir les cibles vertes. Un deuxième robot, une IA, a observé toute la scène pendant 2 heures. Alors, comme un vieux couple qui peut prédire les mouvements de l'autre, cette intelligence artificielle a été capable de prédire toutes les actions du premier robot simplement en observant la scène. Et elle l'a fait avec une précision de plus de 98%. En d'autres termes, cette intelligence artificielle a réussi à se mettre à la place de son homologue et à voir le monde de son point de vue de robot. Ceci est peut-être une lueur d'empathie et les prémices d'une théorie robotique de l'esprit.
En bref, et puisque c'est une émission consacrée au cyberpunk, une prépublication sur le site Archive mentionne des lentilles de contact qui permettraient d'avoir une vision surhumaine, Natacha.
Oui, certains animaux ont la capacité de voir la lumière ultraviolette et de nombreux appareils électroniques nous permettent de voir ce qui est normalement caché. Cette équipe américaine a donc pensé à une lentille de vue qui permettrait de percevoir les UV, tout en laissant passer le spectre de lumière visible et de voir normalement des lentilles de vue pour voir la lumière ultraviolette superposée à une vue normale. Alors selon cette prépublication, cette supervision, cette vue surhumaine serait possible avec des lentilles induites de nanocristaux de perovskite de seulement 10 nanomètres de large.
En bref, toujours des astronomes pensent à créer une station Cérès, comme dans The Expanse, un habitat humain permanent en orbite autour de la planète naine Cérès.
Ouais, Cérès, la plus petite planète naine de notre système solaire, qui se situe dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Dans une prépublication parue sur le site d'Archive, cette équipe finlandaise décrit une colonie de méga-satellites avec différentes unités habitables, interconnectées et évolutives pour terraformer Cérès. Alors une station orbitale en permanente rotation pour simuler la gravité terrestre. Alors pourquoi Cérès ? D'une part, elle est riche en azote, ce qui est nécessaire pour une atmosphère terrestre. Et puis, pour la construction de cette station, je cite ce papier, « extraire des matériaux depuis Cérès est énergétiquement bon marché. Cela serait possible à l'aide d'un ascenseur spatial. Et enfin, Cérès serait un tremplin idéal pour explorer l'ensemble du système solaire. Les chercheurs peaufinent encore leur projet.
Le e-sport est au programme des Jeux Olympiques de 2022.
Alors, c'est pas encore les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux Asiatiques de 2022, l'Assemblée, mais c'est peut-être un premier pas, l'Assemblée Générale du Conseil Olympique d'Asie a décidé donc d'intégrer l'e-sport dans les disciplines officielles des Jeux de Hangzhou en Chine en 2022. Les sports électroniques sont déjà très populaires en Asie, mais la pandémie a peut-être changé les mentalités, le regard que l'on porte sur eux. Peut-être que des e-athlètes rejoindront bientôt les Jeux Olympiques.
Selon une étude parue dans la revue Personality and Individual Differences, les films de zombies nous ont peut-être finalement assez bien préparés pour surmonter la pandémie de Covid-19.
Oui, pour cette étude américaine, 310 participants ont répondu à un questionnaire sur leurs préférences en matière de films, puis sur leurs sentiments à propos de cette crise sanitaire. Il se trouve que ceux qui aiment les films d'horreur, les films de zombies et de science-fiction sont moins en détresse psychologique que les autres. Les férus de films post-apocalyptiques semblaient mieux préparés psychologiquement au confinement. Alors selon les chercheurs, ces films serviraient de répétition mentale et nous rendraient peut-être plus résilients face aux événements réels.
Détruire l'escalier et rester à l'étage, c'est toujours la bonne solution pour survivre à une apocalypse zombie. Allez, comme chaque vendredi, Natacha, on termine par la rubrique de science improbable. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une affaire de piratage informatique assez particulière et assez délicate.
Je ne savais pas avant de faire cette chronique, mais il existe des ceintures de chasteté connectées. Ça s'appelle le Cellmate. C'est un jouet sexuel BDSM pour hommes, pour empêcher les érections. Et ce sextoy est connecté et contrôlable à distance. Alors en octobre, des chercheurs ont découvert que le Cellmate présentait une faille de sécurité et que des pirates informatiques pouvaient prendre le contrôle de l'appareil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des hackers ont pris des pénis en otage et ils ont exigé une rançon pour leur libération en bitcoins. Les victimes ont reçu par ce mail ce message « Maintenant ton pénis est à moi, le 21e siècle ne déçoit jamais ».
Et c'est parfait en tout cas pour repartir sur une émission sur le cyberpunk, parce que c'est vraiment typiquement une genre de situation qu'on peut rencontrer dans des divers cyberpunk, sauf que là ça n'est pas juste avec une prothèse. Bon bref, on va pas rentrer là-dedans. Merci beaucoup Natacha, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences.
Merci, à lundi.